Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
De nous accepter chez vous, mesdames et messieurs, une fois de plus, merci d'accorder une attention particulière à ce rendez-vous interactif sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. Le gouvernement congolais a annoncé mardi dernier la fin de la 9e épidémie de la maladie à virus Ebola sur le sol congolais. Selon le ministre de la Santé, Oli Ilunga, le pire des scénarios a été évité grâce à une mobilisation rapide et au recours pour la première fois à un vaccin contre cette fièvre hémorragique. La question pour les débats, que faut-il faire pour capitaliser les acquis de la lutte contre cette fièvre? Commentez ces sujets à l'adresse pa@radiocapi.net et rejoignez-nous donc au 081 890 63 30 ou encore au 081 890 49 69. Martin Sebujangwe supervise ces programmes réalisés par Nico Kalambay et mis en onde par Willem Lungamba. Ces magazines est coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Angie. Merci de nous rester fidèles et bonne condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Dr Njolo Kobaté. Bonjour docteur.
Bonjour Monsieur Gier.
Vous êtes le directeur général de lutte contre les virus d'Ebola au ministère de la Santé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais la première question, pour un petit rappel, le virus d'Ebola, pour la 9e fois, s'est déclaré quand et combien de temps cela a sévi la RDC?
Merci, Monsieur Gier. D'abord, je précise que je ne suis pas le directeur général de lutte contre Ebola, je suis le directeur général de lutte contre la maladie au sein du ministère de la Santé. Qui me soit permis que c'est son excellence, Monsieur le ministre, qui m'a qui m'a donné l'occasion de venir le représenter ici, puisqu'il est empêché. C'est lui-même qui devait passer sur vos antennes à l'instant. Au fait, cette épidémie a été déclarée le 8 mai. Du fait de la confirmation biologique par les experts congolais de l'INRB, qu'effectivement c'était un virus qui avait contaminé nos deux premiers compatriotes et qu'à partir de là, l'autorité a déclaré le début de l'épidémie. Et cette épidémie a sévi jusqu'à être déclarée, la fin a été déclarée le 24 juillet. Et voilà. Mais tout compte fait, c'est une durée très très courte pour la gestion d'une épidémie de ce genre et dans un contexte aussi difficile du point de vue logistique et du point de vue de ressources et de l'environnement.
Merci. Alors l'expérience acquise par la RDC quant à la lutte contre les virus d'Ebola devait présager au fait la non-résurgence de cette maladie. Mais on a été tous surpris de voir qu'après la 8e, il y a eu une 9e. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?
Ok, évidemment nous avons...
Est-ce que la riposte au niveau de la 8e était faible?
Non, je ne peux pas le dire. Elle était d'ailleurs excellente, hein, puisqu'elle avait causé moins de dégâts. Le problème des épidémies à virus Ebola, s'il y aurait une 10e épidémie, c'est juste puisqu'il y a des paramètres que la science ne maîtrise pas encore. Il faut retenir que ce virus, c'est un virus qui vit dans le milieu animal. C'est une maladie des animaux, que nous appelons zoonose, qui, par moment, passe chez l'être humain, comme la rage. Et nous avons chez les chiens, qui peut contaminer un être humain, et ça devient fatal chez l'être humain que chez les animaux. Et voilà que maintenant, nous n'avons pas encore, et la science n'a pas encore cerné tous les contours de la transmission et du passage de ces virus des animaux vers les êtres humains. Il y a beaucoup d'hypothèses sur lesquelles nous avons des éclaircissements sûrs, qu'il y a des rongeurs, il y a tous les chauves-souris et tous les animaux de la forêt. Au moins ça, le lien est connu. Mais alors, pris comme ça, on peut pas prédire qu'il n'y aurait plus jamais, puisqu'on ne maîtrise pas l'épidémiologie de ces virus chez les animaux. Mais par contre, et ça c'est le bénéfice d'avoir géré autant d'épidémies pour les experts congolais, c'est qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment de capacités pour que si ça survenait, nous sommes capables, comme nous venons de le faire tantôt, qu'en 24 heures, maximum 48 heures que les équipes se déploient. Cela a comme avantage de limiter l'extension, limiter le nombre de contaminés et limiter les décès.
Est-ce qu'au nombre de paramètres de succès de la lutte contre les virus d'Ebola, en sa 9e phase en RDC, si je dois me permettre de dire ça comme ça, est-ce qu'on peut dire que on peut compter avec un vaccin qui a été qu'on a dû utiliser?
On peut pas dire oui, non, mais au moins la tendance est de dire que la vaccination doit avoir apporté sa part dans le succès de cette dans la gestion de cette épidémie. Il faudrait encore que les études nous démontrent. C'est pour cela que nous avons des études qui sont en train d'être conduites auprès de personnes qui ont été vaccinées et même auprès des personnes que les survivants, en fait, les gens guéris.
Parce que les propos du ministre lors de la cérémonie déclarant la fin de l'Ebola disaient que effectivement toutes les personnes qui ont été vaccinées, alors aucune d'entre elles n'a contracté le virus.
Et c'est vrai, lui-même y compris, il a été parmi les personnes vaccinées, son excellence monsieur le ministre Oli Ilunga. Et évidemment, jusqu'à preuve du compte, il n'a pas encore fait
sur place en Mbandaka, là où c'était déclaré.
Partout, personne de ceux qui ont été vaccinés, personne n'a été contaminé. Mais il faut que maintenant nous fassions des études scientifiques hein, pour les démontrer scientifiquement. Mais au moins, empiriquement, nous connaissons les personnes qui ont été vaccinées et nous savons que personne d'entre elles. Sinon, on n'aurait même pas déclaré l'épidémie à cette date.
Alors, si vous pouvez nous faire une idée, c'est déjà, bon, on peut dire déjà la fin, c'est déjà le passé. Si jamais il y a une dixième, il y a toujours des ripostes qui, par rapport à l'expérience, mais on fait peut-être un recul, devoir de mémoire aussi. Comment la RDC a pu gérer cette situation pendant ces 2 mois?
Ok, là, nous avons tiré beaucoup, beaucoup de leçons, une fois de plus, de cette épidémie. Et le premier élément qui était la fondation de cette riposte et de l'efficacité, c'est que dès le deuxième jour de la déclaration, nous avons déjà un plan de riposte. Le cas du ministère de la Santé ont produit un plan de riposte que nous avons soumis à nos partenaires. Et eux, ça n'a pas pris 4 jours après, nous avions un plan commun. Et c'est tout le monde a mené ses activités en suivant les lignes collectivement et consensuellement fixées dans ces plans de riposte. Et voilà, ça, c'était le fil conducteur. À côté de cela, il y avait la partie leadership nationale, partant du chef de l'État, le Premier ministre et tous les gouvernements. Et tout cela a été matérialisé par les ministres de la Santé au sein du gouvernement. Et ces deux éléments pris ensemble ont été deux facteurs extrêmement importants, avec comme sous-bassement l'expertise nationale dans tous les domaines de la riposte. C'est beaucoup de domaines, peut-être on n'aura pas le temps d'en parler, mais au moins il n'y a dans aucun domaine de la riposte où il n'y a pas de experts congolais qui ont un niveau pointu du niveau international.
Mmh. Bah alors que faire maintenant pour arriver vraiment à l'éradication? C'est ça la grande question.
Oui, éradiquer.
Parce qu'il ne faudrait pas que ça devienne un cycle pour la RDC.
Oui, on ne peut pas arriver, justement, comme je l'ai dit au début de la mission, on ne peut pas éradiquer une maladie pour laquelle il y a encore des zones d'ombre dans la chaîne de transmission. Et effectivement, la partie de shifting de la maladie de l'animal à l'homme, nous ne maîtrisons pas encore tout. Mais, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, avec les niveaux suffisants d'alerte que nous avons, avec les niveaux suffisants de protection et contrôle des maladies que nous sommes en train de mettre dans les hôpitaux, dans les centres de santé, dans les 16 provinces à haut risque Ebola sur les 26, Nous pensons que les risques d'effet contaminé, d'excès contaminé pourraient sensiblement baisser pour que nous puissions avoir des cas sporadiques et que ce ne soit pas nécessairement des grosses épidémies.
Alors, je pose la question autrement, avant d'ouvrir les standards et d'accueillir les auditeurs qui nous ont rejoints pour ce débat, que faut-il faire pour capitaliser les acquis de la lutte contre cette fièvre? Parce que c'est déjà un succès à la 9e, et comment faire pour capitaliser? Okay. Par rapport à l'expertise qu'on a,
Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons pris l'approche, c'est l'autorité, de documenter le plus possible tous les succès de cette épidémie. Et si vous avez suivi les discours de son excellence, monsieur et messieurs, hier, c'était qu'on arrive à documenter tous les succès. Et cela part de la planification dont j'étais en train de parler jusqu'aux activités les plus élémentaires dans les villages, dans les ménages, dans les foyers. Et tout ça, une fois qu'on va les documenter, nous allons les introduire dans le cursus des formations et en formation continue et éventuellement en formation de base des experts, y compris la mobilisation communautaire. Et ça, nous pensons que c'est des approches extrêmement importantes. Et à côté de cela, il y a tout ce qu'il y a comme aspect logistique. Et là, vous avez suivi le chef de l'État dans son adresse à la Nation. Il a salué le rôle de la MONUSCO. Au fait, la MONUSCO a été d'un grand apport sur la partie logistique. Et ça, l'une des leçons, c'est que le positionnement des intrants dans les provinces à risque, ça, c'est une des approches qui pourra nous donner encore beaucoup plus de succès si jamais survenait une deuxième épidémie.
Voilà, 081-890-63-30 et encore les 081-890-49-69 pour votre intervention en direct.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Nous entamons le deuxième quart d'heure de la première demi-heure de cette émission. Ismaël, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Ismaël, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous. Bonjour.
Vous avez la parole, Ismaël.
Oui, je comprends l'analyse de l'invité. Mais le problème de l'Ebola est la chevenue à répétition. Ce n'est pas parce qu'on maîtrise cette épidémie, mais je comprends. Et je me pose la question, là, pourquoi la neuvième fois? Je me suis posé la question quand c'était survenu il y a quelques années. C'est un problème de la santé de la communauté, de la santé publique. Une personne peut être comme un bouc émissaire juste qui n'a pas ni touché l'animal, ni mangé même l'animal qui apporte cette maladie. Je comprends que cette maladie devait avoir l'ampleur de la sensibilisation au niveau national qu'international. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que le principe qui dit vaut mieux prévenir que guérir. Mais pourquoi le vaccin arrive au jour où à la survenue de l'épidémie? C'est ça le problème que nous avons. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas mis les moyens de la sensibilisation en vue de prévenir cette maladie, comme il y a déjà 8 fois et 9e fois. C'était une maladie qui devait nous servir de la référence pour savoir il y a telle chose. Ça devient des cas échéants tels que les choléras et l'Ebola. Ce sont des maladies qui emportent des vies humaines. Quand vous êtes touché pour cette maladie, c'est très compliqué. On ne peut pas. Soit tu as 90% de la perte de la vie et 10% de la survie. Mais je comprends aussi que ce qu'on devait faire par les gouvernements, la santé est un domaine très négligé, et comme l'enseignement. Les budgets alloués pour la santé ne conviennent pas pour un peu prévenir telle ou telle maladie, quel peut être les budgets pour prévenir tel ou tel incident. Aujourd'hui, l'Ebola fait l'écho et on se retrouve, quand on analyse, on se réjouit jusqu'à on a éradiqué la maladie. Même à mon niveau, je vois que le ministre de la Santé devait se faire de déployer plus d'efforts en vue de mettre les moyens pour la sensibilisation jour après jour pourvu qu'on ne puisse pas tomber. Soit si on arrive à un cas qu'on ne puisse pas avoir autant de vies humaines perdues. Qu'est-ce qu'on devait faire en premier lieu? On devait instaurer la méthode de lavage de mains à tout lieu. Et en plus, on devait mettre la méthode de la surveillance
de chaque animal qui soit tué ou décédé de soi dans une brousse, qu'on ne peut pas toucher ou on ne peut pas vendre. Mais c'est très difficile à un niveau de la vente parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut manger et qu'est-ce qu'on ne peut pas manger.
Si je comprends bien, Ismaël, si je comprends bien quand vous parlez de la surveillance de l'animal, là vous voulez mettre à profit aussi le travail ou l'activité de services d'hygiène aujourd'hui. Dans quel état se trouvent d'ailleurs nos abattoirs? Et est-ce que les gens s'y intéressent aujourd'hui quand on remarque à travers la ville de Kinshasa et ailleurs comment la viande est consommée? Est-ce que tout cela passe et est certifié au niveau des services d'hygiène? Donc c'est déjà la difficulté, c'est pourquoi notre invité a parlé de la planification jusqu'aux activités au niveau de le plus élémentaire.
Oui, merci beaucoup. Je comprends que plus faire des personnes tuent de sa façon et aiment manger aussi de sa façon. Et aussi, si vous arrivez au niveau des abattoirs du pays, toi-même, si tu arrives, tu peux même te sentir mal à l'aise. C'est maintenant qu'on vient de réhabiliter l'abattoir de Lubumbashi, mais je vous dis, c'était dans un état de délabrement très avancé. Vous voyez, si le bâtiment est dans un état de délabrement très avancé, mais tous les services qui se passent là, comment vous pouvez vous apprécier? En même temps, on devait aussi associer les services de la vétérinaire. Pourquoi? C'est parce que c'est là où il y a toutes choses. Ils ont une connaissance à suivre sur ces domaines. Alors, on devait penser d'abord à nos abattoirs et en même temps réhabiliter aussi le service de vétérinaire parce que ce sont eux qui sont habilités à contrôler et à surveiller avant d'abattre.
Voilà. Merci beaucoup, Ismaël, parce que c'est de plus à secret. Lors de la cérémonie de la déclaration de la fin de l'épidémie, le ministre a dit « Préparons-nous pour la dixième épidémie, pour la dixième fièvre à virus Ebola. » Donc, ce sont des stratégies, comment on va capitaliser pour que finalement, on arrive au résultat. John, vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, monsieur Gère.
Quel est votre avis?
Bon, à mon humble avis, monsieur Gère, je vois que vraiment, c'est très important. En tout cas, je salue vraiment la mobilisation de monsieur Oli Ilunga qui a vraiment soulevé une motion là très capitale. Bon, vraiment, je vois que dans des années qui sont vraiment écoulées ici, surtout dans notre sol congolais, cette maladie avait fait toujours naufrage et puis il y avait des orages. Peut-être que cette maladie a été vraiment rencontrée là-bas. Si je n'avise pas là-bas à Mweka, peut-être cette maladie-là avait fait beaucoup de dégâts. Il y avait des morts, peut-être il y avait la prohibition qu'on ne pouvait pas vraiment se saluer à main avec les gens qui venaient de là. Et puis, en ce qui concerne la riposte, vraiment, en tout cas, monsieur le ministre a bel et bien soulevé le cas. Maintenant, j'ai une préoccupation là, c'est une question que je laisse à notre invité. Comment est-ce qu'on peut faire? Quel est le rôle maintenant des gens qui sont chargés pour le cas des vétérinaires au marché? Parce qu'il y a les chasseurs qui viennent avec d'animaux. Et peut-être un animal à ramasser.
Merci. Alors, si je comprends bien, John, vous évoquez la même préoccupation que tout à l'heure Ismaël soulignait, le fait du problème du budget et aussi la question de pouvoir associer d'autres partenaires à la lutte contre cette épidémie, notamment les vétérinaires et les services d'hygiène. Merci beaucoup, John. Pépé Lissungi, vous êtes à Kisangani. Bonjour et bienvenue. La parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, surtout à l'invité.
Quel est votre avis?
Je commence d'abord par ce que l'invité a dit, l'expertise nationale. Oui, avec l'expertise nationale, neuf fois, on est tenté de connaître la maladie ici en RDC. Moi, je crois que c'est comme si cette expertise ne paye pas. Et maintenant, ça devient, pour éradiquer, ça devient tout un problème. Alors, je demande à l'invité, pourquoi ne pas prendre cette maladie comme le VIH, le paludisme, même la poliomyélite, qui à chaque fois il y a des vaccins qui se donnent aux enfants pour donc éradiquer cette maladie. Nous pouvons
Sous le contrôle de notre invité, donc si vous, vous avez les soucis de voir qu'on puisse déclarer ouvertement que cette maladie est devenue endémique.
Oui, oui, parce que l'expertise nationale ne paye pas. 9 fois, c'est beaucoup. Nous pouvons risquer aussi la 10e fois où on peut perdre même 10 000 personnes. Au-delà de ça, je voudrais aussi parler de l'abattage là, de viande. Dernièrement, ici à Kisangani, je vous donne le cas de Kisangani. Le ministre de l'économie et environnement, il a pris la décision d'interdire les gens qui abattent leur viande par-ci, par-là. Il faut aller toujours à l'abattoir public. Mais cette décision n'est pas respectée. Il y a des gens qui se croient être au-dessus des lois du pays. Ils font n'importe quoi et n'importe où. Donc, moi, je crois que nous devons prendre cette maladie en RDC comme la poliomyélite, comme le VIH,
comme le paludisme.
Et surtout dans les zones où cette maladie sont déclarées à chaque fois l'ex-Équateur et l'ex-Province orientale. Ça, c'est là, avec notre expertise, moi, je crois que c'est la solution n'est pas encore là.
Voilà, donc pour vous, il n'y a pas expertise. Dès lors que l'épidémie continue à sévir la RDC, et pour la 9e fois, il y aura une 10e fois, telle que l'ont prédit certains observateurs. Merci Pepe Lisungi d'avoir appelé de Kisangani. Charles, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour JR, bonjour Radio Capi.
Quel est votre avis?
Merci JR pour la parole que vous m'accordez. Je tiens d'abord à remercier le ministère de la Santé ainsi que tous les partenaires qui nous ont aidés à éradiquer rapidement cette épidémie d'Ebola. Voici ma contribution par rapport à la thématique du jour. Comme l'invité l'a dit, étant donné que l'épidémie n'est pas encore maîtrisée pour son éradication totale, nous devons donner des propositions. Ma première proposition est celle-ci. C'est en rapport avec la vulgarisation. Je crois que nous avons constaté que pendant que l'épidémie sévit, c'est à ce moment-là qu'on sensibilise les gens. Mais dès qu'on déclare la fin de l'épidémie, la sensibilisation aussi prend fin. Or, c'est ce qu'on ne peut pas faire. Normalement, comme vous l'avez dit, que l'épidémie d'Ebola revient chaque fois, ça c'est la 9e fois, donc ça signifie qu'on doit continuer toujours à sensibiliser les gens, même si on est arrivé déjà à éradiquer l'épidémie. Ça c'est ma première contribution. La deuxième est celle-ci. Les zones qui ont été touchées ou des provinces qui ont été touchées par l'épidémie, on doit mettre aussi un système de contrôle. Souvent, on contrôle souvent pendant que l'épidémie est en train de battre record. On surveille les gens, on surveille les entrées et les sorties. Mais après l'épidémie, on n'arrive pas à continuer toujours à surveiller ces gens-là. Or, normalement, c'est ce qu'on doit faire. Donc, nous demandons à notre ministère ainsi qu'à tous ses partenaires qui travaillent qu'on essaie un peu de mettre un système en place, qu'il y ait épidémie ou pas, qu'on arrive toujours à sensibiliser les gens pour que nous puissions plus revenir à cette histoire. Voilà un peu ma petite modestie.
Merci beaucoup Charles. Pour vous, il faut renforcer la sensibilisation et que celle-ci puisse demeurer permanente, parce que vous avez, vous constatez, qu'à chaque fois que l'épidémie est déclarée, il y a un cordon sanitaire qui est mis en place, mais après, silence radio, et puis bon, on est surpris de connaître encore la résurgence de cette maladie. Et pour la 9e fois, ça met en cause l'expertise acquise par la RDC quant à la lutte de cette maladie. Merci beaucoup, Charles, d'avoir appelé. 09 97 06 63 30 ou encore les 09 97 06 49 69 pour votre intervention directe.
Identité culturelle. La culture congolaise, dans sa diversité et sa richesse, a un rendez-vous sur Radio Capi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Et trouvez toute l'équipe tous les samedis à 8h30, le mardi à 14h15.
Voilà, nous revenons dans ce studio avec vous, docteur Ntcholoko Baté. Vous êtes directeur général de lutte contre la maladie au ministère de la Santé. Vous avez suivi les uns les autres. Quelle est d'abord votre réaction? Et surtout quand on attend, bon, on paraphrase le ministre qui dit nous devons nous préparer à la 10e épidémie d'Ebola. Lorsqu'il a martelé que malgré la faim, toutefois, la maladie d'Ebola était un virus dont les réservoirs naturels est situé dans la forêt équatoriale. Nous devons nous préparer à la 10e épidémie.
Ok, d'abord, je salue tous les auditeurs. J'ai suivi avec attention les interventions. Et pour nous, c'est déjà les résultats du travail que nous avons fait, que les gens soient sensibles et suffisamment sensibilisés. Quand quelqu'un de Lubumbashi appelle sur Ebola, tout en, pour nous, Lubumbashi, ce n'est pas vraiment la, le milieu où il y a les grands risques d'épidémie d'Ebola. Ça signifie c'est aussi la notion de la nation qui est mise au devant. Et c'est quelque chose de très, très bon. Alors, le deuxième, c'est que quand le ministre dit que nous devons nous préparer à la 10e, ce n'est pas que la 10e arrive demain. C'est de mener un certain nombre d'activités pour que, si jamais la 10e arrivait, que nous puissions faire mieux. Et c'est là que, permettez, M. J.R., que je rappelle que presque à la même période l'année passée, nous avons connu une épidémie du même genre au Bazouéli, à Likati. Et aujourd'hui, dans ce que le ministre et le standard international appellent la résilience, nous sommes en train de restaurer en entièreté l'hôpital général de référence de Likati. Sur les 11 centres de santé qui étaient empisés, tous les centres de santé de ces zones de santé étaient empisés. Nous sommes en train, c'est dit le gouvernement congolais avec les partenaires, nous sommes en train de construire en dur pratiquement 8 sur les 11. C'est cela, c'est préparé à la 10e. Puis on s'est dit, comme c'était survenu à Likati, ce n'est pas exclu que ça puisse survenir encore. Alors, un élément aussi important, c'est les éditeurs parlent des abattoirs et autres. Ils ont raison. Mais au moins ici, les réservoirs du virus n'est pas en soi dans les animaux domestiques que nous avons, la vache et autres. Mais les animaux domestiques peuvent les contaminer et eux venir nous contaminer. Ce qui fait, le deux grands risques que l'on court pour se faire contaminer, c'est la manipulation des animaux et la manipulation de cadavres humains morts sur un tableau du genre. Ça, ce sont les deux facteurs qui ont fait à ce que nous puissions contracter l'épidémie et qui expliquent de temps en temps pourquoi cette maladie animale passe chez les hommes. Et quand ça arrive chez les hommes, ça contamine d'autres hommes. Ce sont ces deux facteurs de risque. Ça signifie si déjà la population le sait, et ça peut déjà être très bon. Et le niveau de la sensibilisation, je suis tout à fait d'accord avec notre collègue qui venait de parler de la sensibilisation. Effectivement, aujourd'hui, moi, comme j'ai joué le rôle d'incidence manager, c'est-à-dire le gestionnaire des opérations pour cette riposte, j'étais surpris que le président de la société civile du Maniema m'appelle de Kindu pour me dire qu'il y a un cas suspect dans un quartier qu'on appelle Tokoloté. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour nous, c'est un facteur important. Et on a fait tout pour faire venir ces échantillons alors à la toute première occasion pour que ça arrive à l'INRB. Dieu merci, c'était un test négatif. Et nous avons maintenant comme ça des alertes de partout, y compris la ville de Kinshasa. Juste pour vous donner une idée, pour cette épidémie, nous avons eu 850 alertes à travers les pays, y compris dans la ville de Kinshasa. Ces alertes-là viennent des citoyens, viennent des mamans du marché. Ça signifie que ce travail
doit continuer. Vous avez utilisé un numéro vert?
Oui, 47-22-22. Et ça, c'est très, très important. Et pour nous, quand nous préparons la 10e épidémie, c'est aussi continuer à sensibiliser, ne pas arrêter. C'est aussi arriver à réhabiliter les hôpitaux à l'Équateur essentiellement. Et vous vous rendrez compte que même dans à la fin de cette épidémie, les matériels qui ont été affectés en Bandaka, Itipo et Bikoro, nous allons les affecter dans les Maindomb, dans les Chop, la Chopo, dans le Mongala, je pense Bazouélé, pour que tous ces bénéfices-là puissent profiter. L'un des auditeurs a raison de dire que c'est l'ancien Équateur et l'ancienne province orientale où les gros est venu de nos épidémies à part à Mweka. Et cela, c'est préparer la 10e épidémie. C'est construire aussi et réhabiliter un hôpital et un laboratoire de niveau le plus élevé en Bandaka. Et ça, nous sommes en train de le faire. Et là, nous venons d'élaborer les plans de consolidation. C'est-à-dire quelles sont les activités que nous menons avec les moyens qui nous restent. Mais pour revenir à un des éléments de l'auditeur, la survenue des maladies de virus Ebola, c'est effectivement un problème
de moyens.
De moyens. C'est un problème de développement.
De gros moyens, d'ailleurs.
De gros moyens. Pour cette épidémie, il nous a fallu 56 millions de dollars. Deux avions en permanence entre Kinshasa et Mbandaka. Deux hélicoptères en permanence entre Mbandaka et Tipoibo Bikoro. Vous savez bien que Bikoro, ce n'est qu'à 125 km de Mbandaka. Mais il n'y avait pas de route. Et pour gérer une épidémie, vous n'allez pas attendre. Et nous avons fait tout ces routines-là, matériel et personnel, en hélicoptère.
Et comment vous en êtes sorti? Est-ce qu'avec des moyens propres ou ce sont des partenaires qui vous ont aidé? Parce qu'on a vu l'implication de l'OMS. Même le responsable de l'OMS, ça a fait les déplacements de Mbandaka.
Tout à fait. Il a fait même deux fois. Et la troisième fois, c'était avant hier et hier ici. En fait, les gros, il faut dire que les gros, l'effet que les ministères, l'effet que les gouvernements avaient mis de cachets, et ça a été un facteur déclencheur pour que les partenaires amènent plus, puisque les gouvernements avaient déjà mis et de façon la plus rapide possible. Et effectivement, et voilà, juste, j'étais en train de vous donner quelques éléments. C'est 98 véhicules, c'est 236 motos, vous imaginez, hein, c'est 8 ambulances, c'est 2 chaînes, c'est 2 chambres froides. Dès qu'il y a des ressources humaines, c'est 1697 personnes mobilisées. Et tous ces gens-là, c'était pas des bénévoles, bénévoles. C'est des gens qui ont été payés. D'ailleurs, vous avez suivi Kekeremou, puisqu'il y avait tellement beaucoup de gens en Mbandaka, qu'il y avait même un peu de cafouillage. Mais c'est ça,
Comment faire pour que demain, la RDC ne dépense pas non plus, cette grosse somme, une somme faramineuse pour que, finalement, qui pouvait servir à autre chose, par exemple?
Non, je suis d'accord.
Parce que par rapport à l'expertise que nous avons, il y a un auditeur qui s'est soucié de ça. Il dit, d'une part, il y a l'expertise, mais de l'autre côté, il y a cette résurgence. Finalement, c'est un paradoxe.
Non, c'est pas un paradoxe. Il y a beaucoup de paramètres qui apprécient le niveau de performance de réponse à une épidémie. Parmi lesquels, c'est le taux d'attaque.
Après la riposte, il y a le silence.
Non, pas du tout.
Est-ce que la sensibilisation par les passés, c'était vraiment à hauteur? Peut-être à votre arrivée au ministère, vous avez amené peut-être une valeur ajoutée. Mais avant, parce que si nous voyons la huitième fois, ou la septième ou la huitième fois, est-ce qu'après la riposte, il y avait cette sensibilisation à dimension de la déclaration de l'épidémie dans le pays?
Bon, je ne serais pas parlé de ce qui s'est passé avant. Moi, je parle par exemple d'Ikati. Aujourd'hui, nous sommes en téléconsulte sans santé. Et il réhabilite l'hôpital. C'est un an après, c'est-à-dire les travaux des passations de marché et autres. Nous avons formé les experts, les cadres des zones de santé de toute la province et les travaux continuent. Et nous allons faire des mêmes à l'Équateur, y compris Maïnombe.
Mais il fallait vous servir du passé pour, au fait, améliorer l'avenir.
Bien sûr, bien sûr.
Ce qui s'est passé, là, il faut vraiment que ça vous aide, parce qu'en disant que vous avez pu documenter tous les succès des luttes, je crois que vous avez pris en compte aussi ce qui était fait par le passé.
Tout à fait, monsieur Gia. Non, tout à fait, monsieur Gia. C'est là que j'ai parlé d'une notion, peut-être j'en ai parlé rapidement, la notion de la résilience. La résilience n'avait jamais été au rendez-vous d'aucune épidémie que nous avons connue. Ça signifie, après l'épidémie, on laissait tout tomber. Mais maintenant, là, nous avons l'approche de la résilience. Ça signifie, après l'épidémie, qu'est-ce que nous faisons? C'est pour cela que je reviens sur le cas de l'Ikati, au bas où elle est. Et jusqu'à présent, il y a encore des matériels qu'on est en train de déployer avec l'appui du gouverneur. Sur l'Ikati, des groupes des électrogènes, le matériel pour les centres de santé, pour les hôpitaux, on continue. On n'a pas arrêté au bas où elle est. Et ça sera pareil pour l'Équateur. C'est au fait, c'est ça aussi des leçons tirées. De dire, ne baissons pas la garde. Et cela va jusqu'au renforcement des capacités, même de l'INRB. Aujourd'hui, l'INRB a pu déployer 3 laboratoires mobiles sur le terrain. Les échantillons ne venaient plus à Kinshasa, depuis qu'on avait confirmé.
Alors, est-ce que vous partagez l'avis, parce que je vois un auditeur nous écrire en disant que la solution ne serait que créer un programme ou initier un programme national de lutte contre l'Ebola, parce que c'est comme ça revient, au lieu que qu'on passe qu'on parle de l'endémie, qu'on aille directement à un programme. Est-ce que vous adhérez, vous épousez cette proposition?
C'est une des voies, mais les autorités ont abordé une autre voie, et avec la fonction publique de créer la Direction générale des luttes contre la maladie. C'est une direction relativement nouvelle et qui a été mise à l'épreuve pendant cette épidémie, et nous pensons que les résultats sont là. Les partenaires le témoignent, que l'effet d'avoir un incidence manager, c'est-à-dire les gestionnaires des opérations,
L'intervention de cette direction ne sera pas seulement ponctuelle, ça sera de manière permanente.
Pas du tout, de façon ponctuelle. Là, nous sommes en train d'élaborer tous les outils. Nous avons un travail qui va prendre tout le temps que ça prendra, mais avec des résultats bien déterminés et calés dans le temps. Juste après c'est la déclaration, nous avons déjà un plan de consolidation. Dans 3 mois, nous aurons un plan de résilience globale. Et pour toutes les provinces voisines, y compris la portée nationale. Et heureusement, nous sommes en train d'être accompagnés aussi par les partenaires qui comprennent. Évidemment, c'est ça l'avantage d'avoir aussi tiré les leçons et les avantages de l'attention et de l'intérêt aussi de la communauté internationale. Et ça, le pays est en train de les capitaliser très, très positivement, mieux qu'auparavant. Et pour revenir sur un petit élément, un des auditeurs est revenu sur l'éradication. Je venais de le dire, on n'éradique jamais une maladie pour laquelle il y a encore des zones d'ombre dans la chaîne de transmission. Nous pensons que peut-être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, le plan de recherche, et ça c'est aussi une innovation, nous avons tout un plan de recherche avec des thématiques qui partent de l'épidémiologie, biologie, anthropologie et sociologie, même jusqu'au niveau des aspects socio-économiques qui ont l'impact sur la survenue, et peut-être toutes ces études-là, puis elles seront financées.
Est-ce que le vaccin utilisé, cette fois-ci, c'est les résultats des recherches au Congo ou ce sont des partenaires?
Ah oui, oui, là je dois saluer... tout le travail abattu par le patriarche, professeur Mouyembe, et tout. Il y a aussi beaucoup d'autres, hein, mais au moins lui, c'est le monsieur qui a porté la lutte contre le maladie Ebola à travers le monde, et c'est une fierté nationale. Et ces vaccins, effectivement, c'est le résultat de la participation alors prépondérante de l'expertise nationale. Y compris les médicaments. Puis c'est ça aussi, on n'en a pas parlé, peut-être on ne les a pas utilisés. Il y a aussi des molécules thérapeutiques, mais que nous voulions utiliser cette fois-ci. Mais comme l'épidémie n'a pas duré, on n'a pas pu, selon les protocoles, avoir l'opportunité de les utiliser. En fait, nous avons, s'il y a des domaines de connaissances médicales dans lesquels le Congo s'est positionné au mieux...
Donc on est fier aujourd'hui d'avoir une expertise à partager... avec d'autres pays en Afrique ou ailleurs, si jamais ces pays connaissaient aussi des cas d'Ebola déclarés, donc nous on est quand même avancés. On doit en être fiers.
Pas quand même. On est extrêmement avancé. Monsieur Gérard, il faut le dire, je suis très fier d'être médecin congolais et me retrouver parmi ceux qui portent cette lutte aujourd'hui. Évidemment, en 76, j'étais un gamin quand ça a commencé. Mais il faut dire que non, moi je connais pas un domaine pour de la connaissance médicale, hein, je précise bien, pour lequel nous avons une fierté à ces niveaux-là. Je n'en connais pas. Voilà. Mais malheureusement, c'est pas aussi bien capitalisé.
On va peut-être faire une émission également avec docteur Mouyembe lui-même. Comment faire pour capitaliser aujourd'hui ces vaccins? Est-ce qu'au niveau de l'OMS, ça n'a pas posé un problème? Est-ce que c'est déjà accepté, ces vaccins de la lutte contre Ebola?
Effectivement, si c'était pas accepté par l'OMS, on n'allait pas l'utiliser au Congo, ni même pas en Guinée.
Merci beaucoup. Alors, on va prendre Étienne qui est à Gemena, Pichu à Kwilungongo, Jérémy à Lubumbashi. Étienne, bonjour et merci d'accepter d'intervenir dans cette émission.
Ok, merci JR, merci Sali à notre invité et à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre contribution, Étienne?
Oui, merci, monsieur le journaliste. Au prime abord, excusez-moi quand même de présenter mes condoléances à toutes les familles qui ont été touchées, donc qui ont été victimes de cette maladie. Je pense que les prédécesseurs ont presque ramassé toutes mes interventions, mais il y a lieu quand même de dire une chose. On peut quand même commencer par féliciter le ministère de la Santé pour cet effort consenti et que l'épidémie venait d'être déclarée éradiquée. Mais toutefois, M. J, il y a une chose qui se passe. Je pense que l'expert, le médecin qui est au plateau, vient de l'affirmer. La République démocratique du Congo, notre pays, devrait quand même faire cet effort-là de mettre sur pied une politique sanitaire. Parce que sous d'autres cieux, il y a certaines petites maladies qui n'existent pas, mais aujourd'hui, ça continue à exister dans notre pays. S'agissant de la maladie à virus Ebola, qui est d'ailleurs d'origine animale, moi je pense qu'il est important
qu'un travail puisse être fait, un travail interministériel, c'est-à-dire le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé, voir dans quelle mesure la population congolaise devrait être vraiment protégée quant à cette maladie. Parce que c'est la 9e fois que notre pays soit touché par cette maladie et on est en train de présumer la 10e fois déjà. C'est ce qui est inquiétant. Pour dire que quand bien même qu'on déclare son éradication, mais on suppose que cette éradication n'a pas été totale.
Ça, oui, et oui, Étienne, je crois peut-être que c'est un problème de terme. Nous n'avons pas utilisé le terme éradication. On l'a dit, le gouvernement a déclaré la fin de l'Ebola, donc la 9e épidémie. C'est la 9e, c'est la fin.
Oui, la fin. Oui,
la fin, ce n'est pas le. Oui.
Bon. Ok, bon. Bon,
parce que mieux, la nuance entre éradication et la fin. Oui.
Ok. Oui, c'est un problème de terminologie, monsieur le journaliste. Mais au moins, moi je pense que mettre sur pied une politique sanitaire serait une bonne chose. Mais également, comme les professeurs venaient de dire, ils ont insisté sur la sensibilisation. Moi je pense que, à ce qui nous concerne, et pour prévenir cette maladie, que le ministère puisse mettre déjà en place une politique de sensibilisation dans presque toutes les provinces, donc dans tous les chefs-lieux de provinces, parce que la sensibilisation, à mon humble avis, coûterait moins cher et la maladie, une fois déclarée, coûte extrêmement cher. Donc, à partir de maintenant déjà, parce qu'on a déclaré la fin de la maladie, que la sensibilisation puisse commencer déjà dans tous les coins et les recoins de la République démocratique du Congo.
Voilà, Étienne, vous avez, je crois que vous avez. Oui, Étienne.
On travaille en étroite collaboration, je disais, avec le ministère, et ça permettait. Mais une chose, monsieur le journaliste, l'invité vient de parler des problèmes de moyens. Mais moi, je pense que les problèmes de moyens ne se posent pas quand il y a eu la maladie. Il y a des partenaires qui sont intervenus. Donc, si la volonté de garantir une bonne santé à la population est là, moi je pense qu'on mobiliserait des moyens et on ferait de sorte que cette maladie qu'on a déclarée la fin aujourd'hui ne puisse pas revenir pour la 10e fois quand même.
Merci beaucoup Étienne. Je voulais vous faire savoir que effectivement quand vous parlez de la sensibilisation à travers le pays, notre invité avait souligné que effectivement au niveau du ministère pour cette fois-ci, on a pensé mettre toute une direction hein pour la lutte contre la maladie, cette direction que dirige donc notre invité docteur Njoloko Baté. Voilà, on va accueillir également Pichu qui est à Kwilungongo. Pichu, bonjour.
Bonjour, monsieur Zier.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Bon, les auditeurs précédents ont déjà presque tout balayé, parce qu'on devait plus s'atteler sur les cas évoqués par la radio. Et beaucoup de respect à notre invité qui est sur le plateau. Je crois qu'il a pratiquement tout étalé. Mais ce qui a beaucoup retenu mon attention, c'est par rapport aux infrastructures routières. C'est ce qu'il a répété, je crois que j'ai retenu. Il a dit qu'ils ont eu du mal à atteindre Iboko, ils ont eu du mal à atteindre l'endroit où la maladie persistait. Moi, je crois qu'il y a lieu quand même que le gouvernement central puisse jeter un coup d'œil sérieux. Je crois que je suis équatorien, je connais dans quel état des routes se trouvent dans quel état se trouvent nos routes à l'équateur. Moi, je crois que c'est très sérieux pour nous. Aujourd'hui, je crois que si les routes étaient dans très bon état, les dépenses que les gouvernements, ou soit l'OMS, a pu décaisser, pouvaient se réduire ou s'amoindrir parce que les infrastructures sont très bonnes. Mais curieusement, je crois que le gouvernement était conscient de voir que malgré les 5 chantiers, malgré la révolution de la modernité que le chef de l'État a prôné, que l'Équateur, jusqu'aujourd'hui, se trouve dans un état où personne ne peut accepter dans la République démocratique du Congo. Je m'en vais tout droit aussi dire pour la prévention. Moi, je crois que l'invité a souligné les problèmes que la maladie se trouverait plus du côté, c'est plus animal, et puis ça se trouve du côté de l'Équateur, et puis du côté des hautes, des bas gelées, et plus à Bouta ou bien à Issio. Mais de l'autre côté aussi, il faudrait aussi prévenir, parce que le ministère de la Santé aujourd'hui se trouve partout. Les jeunes se trouvent plus dans des frontières que dans des cités, dans des villes. Nous voyons même aujourd'hui des restaurants qu'on appelle au communément Maléwa. Est-ce que les agents de l'hygiène ou les agents de la santé sont partent au moins visiter ou soit font voir dans quel état les Congolais sont nourris dans ce maléwa. Si nous voyons même les importations, partant des importations, nous prenons l'exemple de cette histoire qui est dans d'autres pays, on ne le mange même pas, qui est jeté pour les ours. Nous prenons le jambon, soi-disant jambon, mais ce n'est pas le jambon, c'est la peau, c'est la chair, la graisse des porcs. Mais aujourd'hui, ici, c'est devenu comme si nous manquons des animaux, ou soit nous manquons des gibiers pour faire nourrir la population. Ça, c'est déplorable parce que, une fois, j'étais de passage vers le marché, le grand marché à Kinshasa. J'ai vu comment est-ce que les dingari préparaient cette histoire dans des tonneaux coupés en deux et ils. Oh non, c'est quand même, nous sommes dans un pays quand même. Il y a un gouvernement en place. Soyons responsables. Moi, je crois que notre invité fera transmettre ce message au niveau du ministère. Peut-être qu'ils ont essayé de négliger ou oublier cet aspect. Mais c'est quand même très important que notre invité sache que les Congolais ont besoin d'être en bonne santé. Pour être en bonne santé, il faudrait prévenir. Tous ces gens qui sont dans des frontières ici. Ici, aujourd'hui, si vous circulez même là où, dans ma cité où je suis, vous ne trouverez peut-être pas un contrôle de routine des agents de l'hygiène dans des cités, ou soit dans des restaurants, dans des bars, dans des endroits où, à l'époque, on voyait des gens passer de temps à autre. Même dans des parcelles, contrôler des toilettes, c'est très important. Mmh. Ouais, donc,
merci beaucoup, bon. Pichu, d'avoir appelé des Kwilungongo. Vous vous inquiétez par rapport à ce qui est fait sur le terrain. Notre invité reviendra sur ça avec beaucoup de détails. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Jérémy.
Merci beaucoup, M. JR. Merci également au docteur avec vous. Je ne pense que il n'est pas, je ne vois pas opportun de s'y atteler plus à la genèse de cette épidémie. Et également, c'est bien beau de parler du concept de vaccination, mais je voudrais juste manquer, est-ce que l'État s'est rendu effectivement compte de l'éradication de cette épidémie? Est-ce qu'il n'y a pas des cas isolés et qu'on rencontre ça et là qui demeurent incontrôlés? Et je voudrais aussi demander, est-ce que pour qu'on arrive à atteindre le plan de riposte, bien sûr, pourquoi on doit attendre plutôt le plan riposte qu'après que la dite maladie a coûté la vie à quelques Congolais, utiles bien sûr à la société. Pourquoi ne doit pas prendre des dispositions? Pourquoi on ne doit pas prendre des mesures qui s'imposent pour mettre bouter hors d'état de nuire cette criante épidémie que moi je considère comme endémique? Parce que je pense que la première des choses qu'on doit faire, la planification doit se plier plutôt au niveau embryonnaire, bien sûr. Et cette sensibilisation doit constituer le pain quotidien de tout Congolais avec la politique définie par le ministère ayant en charge, bien sûr, la santé. Et je pense que lorsqu'on parle du problème de vaccination, mais nous sommes en train de regretter sur certains plans. On envoie parfois des gens non indiqués pour couvrir cette
activité,
cette vaccination. Les prestataires ne sont pas des gens indiqués. Mais je pense que les gouvernements, ou soit l'État, doit prendre des mesures qui s'imposent pour chercher un peu à orienter. Et en plus, on doit fournir des armes adéquates aux médias, parce que c'est peut-être les médias qui constituent un grand pouvoir pour atteindre, sensibiliser presque.
Est-ce que vous pensez comme les autres proposent qu'on puisse emboîter, prendre une démarche comme c'était le cas en Deuxième République ou vers les années 70 ou bien avant même, on a pu vacciner pratiquement la quasi-totalité de la population contre des maladies épidémiques. Est-ce qu'on peut pas aujourd'hui, avec à l'aide de ces vaccins mis en place par les docteurs congolais, qu'on puisse vacciner l'ensemble de la population, comme ça tous nous serons à l'abri de la 10e épidémie?
Tout est possible, M. JR, et je pense que c'est l'alternative que moi j'opterais. Et je pense que c'est ce qu'il faut mettre en exergue pour éradiquer, bien sûr, cette épidémie qui frappe présentement pratiquement tous les Congolais. Et ça touche et ça enfreint vraiment à l'évolution des peuples congolais.
Merci beaucoup, Jérémy.
Je pense que l'État doit se priver. merci beaucoup.
Merci beaucoup, Jérémy, parce que la vaccination, signalons-le, de 3 300 personnes qui a été, comme l'a dit Monsieur le ministre, un moyen de briser la chaîne des transmissions probables. Voilà pourquoi les auditeurs qui sont en train d'interagir sur notre page Facebook proposent déjà qu'on puisse vacciner la quasi-totalité de la population, que ce soit vraiment une vaccination des masses pour aider tant soit peu à empêcher l'arrivée ou l'avènement de la 10e épidémie d'Ebola en RDC. Wesley, vous êtes à Kananga. Bonjour Wesley.
Bonjour JR, bonjour à l'invité. Je suis aussi ravi par les sujets du jour. Mais le problème, c'est que l'Ebola effectivement a existé. Nous avons été informés, bien que nous soyons à Kananga, nous qui sommes ici au Kasai Central. Nous avons appris la nouvelle, mais nous n'avons pas vécu ça. Mais je me rappelle une de vos émissions, en fait réalisée sur place à Bandaka, dans l'université de l'ISP, bien sûr. Moi, personnellement, j'avais compris un grand doute qui avait été émis par la population locale du fait que pour elle, je parle bien de la population, pour elle, c'était juste un montage du côté gouvernement pour peut-être dilapider les données publiques d'une manière ou d'une autre pour aggraver la situation, disant que l'Ebola existe effectivement. Mais les agences des États-Unis, de l'Union européenne, de la MONUSCO ont essayé d'apporter des preuves convaincantes ou des preuves convaincantes qui ont prouvé à suffisance que même les services étatiques de notre pays, les ministères bien sûr de la santé, ont prouvé à suffisance qu'il y a eu les cas vrais de la maladie. Mais comme notre invité l'a déjà dit auparavant, dorénavant dans son introduction, il a dit que cette épidémie se transmet facilement via les viandes animales. Et il a parlé des maladies comme zoonoses. C'est vrai, ce sont des maladies qui se transmettent des animaux aux hommes. Et là aussi, il fait allusion à rage ou à la rage des chiens. Mais en fait, sur le terrain, quel est le travail abattu par les services de santé dans le cadre de la vulgarisation contre peut-être des vulgarisations préventives, vous voulez dire, contre les épidémies pareilles, parce que on ne voit pas en fait de sensibilisation. Je vous dis,
voilà. Merci beaucoup Wesley. On va conclure avec notre invité.
Pour atterrir, permettez ici, je voulais vous donner une information comme
rapidement.
Le choléra est déjà annoncé.
Annoncé où?
Oui, le choléra est déjà annoncé. Alors le problème, c'est que les services de la santé, les services de la vulgarisation qui œuvrent dans ce ministère doivent être sur le terrain pour vulgariser, pour sensibiliser la population dans la prise des méthodes prises en charge et dans la prévention aussi des épidémies pareilles, parce que nous sommes beaucoup plus confrontés à des épidémies pour lesquelles les moyens financiers ne nous permettent pas.
Merci beaucoup, Wesley. Merci beaucoup. Alors, on revient à vous, Dr Joloko Obate. Que répondez-vous aux autres et puis on va conclure.
Ok, d'abord une fois de plus je suis très satisfait, il y a que beaucoup de compliments à l'égard du ministère de la Santé par le travail qui a été fait, qui est encore à faire. Et, alors juste pour revenir, tout le problème de santé que nous connaissons, les gros dans tous les pays du monde, est lié à la qualité de la vie. Et Ebola ne fait pas exception. Et c'est là que j'étais en train de dire, c'est un problème du développement. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de la route et tout. Et ça, pour moi, du fait que les pays aient de l'expertise, ça signifie il faut les moyens. Et effectivement, je suis d'accord avec un des partenaires, des interlocuteurs qui a dit qu'il faut des moyens et beaucoup de moyens. Et je suis tout à fait d'accord. Mais je vais vous donner un exemple. L'INRB n'a pas de frais de fonctionnement de l'État congolais. Ça, c'est un exemple, juste un exemple. Pourtant, l'INRB n'est qu'un des maillons de la riposte de la chaîne. Mmh. Et ça pose problème quand même comme citoyen. Pourquoi une institution aussi grande comme celle-là peut avoir autant d'expertise, mais qui travaille sans frais de fonctionnement, avec les salaires qui sont les nôtres. Moi, je suis fonctionnaire aussi. Alors, pour juste reprendre quelques éléments, dans cette riposte, on a travaillé avec les collègues de l'agriculture, des médecins vétérinaires. Nous avons été avec les psychologues, les anthropologues. Nous avons été avec les logisticiens pour dire que la réponse a été multisectorielle et multidisciplinaire. Et c'est ça des facteurs qui ont justifié que nous puissions arriver à là. La sensibilisation, je suis tout à fait avec un des auditeurs qui a dit que ça coûterait moins cher. Et c'est vrai. Mais si vous faites aussi la petite historique des médias, des épidémies Ebola, celle-ci a été la plus médiatisée. Nous avons utilisé tous les instruments de la communication, de Twitter, Facebook, WhatsApp, télé, radio. Tous les experts ont eu le temps, le ministre, le secrétaire général, nous-mêmes, les collègues qui ont l'expertise de la vaccination, direction PV et autres. Et ça, je pense que ça a aussi joué. De ce qui est de la génération de la vaccination, nous avons encore à avoir de la réserve. Puisque ce vaccin, effectivement, est à la phase finale, puisque ça a été utilisé en Guinée. Et si nous pensons que le fait de l'avoir utilisé ici en RDC, où nous avons réussi à vacciner un peu plus de 3000 personnes, scientifiquement, on pourrait arriver à tirer des leçons et l'amener à un niveau le plus élevé. Et voilà, je vais chuter sur un élément extrêmement important. C'est que nous serons fiers demain qu'on puisse quand même ériger un monument. Si on peut ériger un monument pour le professeur Mouyembe, qu'on érige ne fût-ce un monument pour Ebola. Parce qu'évidemment, dans la ville de Kinshasa, bon, je n'ai rien contre les musiciens, mais il y a plein d'avenues qui portent le nom des musiciens, plein d'avenues, des monuments et autres. Mais une sommité scientifique. Aucune sommité scientifique n'a un monument.
Voilà. Nous allons faire une émission spéciale avec Dr Mouyembe par rapport à ces vaccins. Merci Dr Nzoloko Baté d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que vous êtes directeur général de la lutte contre la maladie au ministère de la Santé. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Et merci à William Lungamba, à Nico Kalambay et à Martin Sebujangwe qui ont concouru à la production de cette émission qui vous a été présentée et coordonnée par J.R. Lungembo. Labung Angie. À très vite pour un autre numéro.